18h10 à Paris, 17h10 en temps universel, c'est l'heure du décryptage avec Anne Corpé. Bonsoir Anne.
Bonsoir Sophie Pouzra et merci, on vous retrouve à 19h pour un prochain journal.
Décryptage. Anne Corpé.
Le Premier ministre haïtien a annoncé la nuit dernière avoir renoncé à ses fonctions. Une déclaration qui survient en plein chaos sécuritaire à Port-au-Prince. Les gangs armés qui sèment la terreur dans la capitale depuis des mois ont uni leurs forces et ciblé fin février les rares institutions du pays qui tenaient encore debout. Les prisons, des commissariats, des hôpitaux, l'aéroport et le port de la ville ont été emportés dans une vague de violence sans précédent. Résultat, plusieurs ambassades étrangères, dont celle des États-Unis, ont évacué leur personnel. Avec le départ annoncé d'Ariel Henry, une perspective politique semble s'ouvrir, mais les défis à relever restent gigantesques pour ce petit pays qui, plus que jamais, a besoin d'aide. Mais le Kenya vient de l'annoncer, il suspend sa mission de police en Haïti. Et avec nous en studio pour évoquer la situation dramatique en Haïti, Jacques Nézy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques, membre du laboratoire caribéen de sciences sociales. Merci d'être avec nous.
Comme toujours dit, il n'y a aucun sacrifice.
Comme je l'ai toujours dit, aucun sacrifice n'est trop grand pour notre pays, Haïti. Après un conseil des ministres tenu ce soir, le gouvernement que je dirige a accepté de mettre en place un conseil présidentiel de transition. Les acteurs devront choisir les membres qui constitueront ce conseil. Mon gouvernement se retirera immédiatement après l'installation de ce conseil, mais il continuera à expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un gouvernement. Je demande aux Haïtiens de garder leur calme, de travailler pour rétablir un climat de paix dans les meilleurs délais.
Tout ça le plus rapidement possible pour bien payer.
Alors c'était Ariel Henry, le Premier ministre démissionnaire. Il s'exprimait tard dans la nuit depuis Porto Rico, où il a été contraint d'atterrir alors qu'il tentait de rentrer dans son pays la semaine dernière. Une annonce enregistrée après les déclarations de la CARICOM qui annonçait la chute de son gouvernement. Ça signifie que l'ex-premier ministre haïtien a été contraint à la démission par la CARICOM ou par d'autres acteurs extérieurs comme les États-Unis par exemple?
Oui, cette contrainte était pesante depuis tantôt deux semaines. D'une part, on peut dire que c'était un gouvernement caval. Lui, il était dans son maquis de planquage, on peut le dire, absent depuis deux semaines. Les ministres sont quasiment absents de leur poste. Ils sont même poursuivis pour chasser et par des gangs et par d'autres acteurs. Autrement dit, c'était un gouvernement succès. Et puis, pour Washington, il semble qu'il y ait anguille sous roche. On comprenait pas trop bien ce va-et-vient entre les États-Unis, la République dominicaine, puis Porto Rico, où il semble qu'il a été même accompagné par le FBI. Certains évoquent d'autres hypothèses un peu louches, je ne sais pas trop. Il s'agit-il des risques qu'aurait compris le Premier ministre dans l'affaire kenyane? Il semble qu'il a été trop entreprenant. C'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, il semble que dans les versements de la somme au Venezuela pour les 500 millions de dollars, il semble qu'il y aurait des commissions, etc. Donc il semble, il y a des hypothèses qui courent les rues, mais on voit bien que c'est un Premier ministre en difficulté en tout cas.
En tout cas, il était au pouvoir depuis la mort de Jovenel Moïse et était jugé illégitime par beaucoup. Il avait promis plusieurs fois d'organiser des élections sans jamais le faire. L'annonce de son départ, c'est une bonne nouvelle pour le pays. Comment elle a été accueillie sur place?
Oui, c'est une bonne nouvelle parce que ça peut déboucher sur un dénouement, plus ou moins, même si c'est vrai, on voit bien qu'il y a un collège présidentiel assez innovant, mais qui suscite des risques, des craintes quant au fonctionnement de ce conseil.
Justement, qu'est-ce qu'on sait de ce conseil?
Eh bien, ce conseil, pour le moment, il va être formé des représentants de différentes forces politiques, sociales, économiques, mais il reste à mettre sur pied l'agenda et aussi le mode de fonctionnement, parce que ça va être la collégialité qui va être la règle, mais on sait très bien que les Haïtiens sont coutumiers de ce fait, puisqu'en 1986, il y a eu un gouvernement collégial mis en place par Duvalier avant son départ, puis il y a eu Souhert Tatouyo, et même aussi, après le départ de Jean-Bertrand Aristide en 2006, il y a eu aussi un gouvernement collégial. Mais bon, ils n'ont pas tous été très efficaces, mais pour le moment, on fait confiance au sursaut collectif, à la prise de conscience citoyenne des différents acteurs.
Et vous pensez qu'ils vont parvenir à se mettre d'accord sur la nomination d'un nouveau Premier ministre ?
Je pense, on l'espère bien. C'est vrai que depuis 3 ans, les différents acteurs politiques n'arrivaient pas à s'entendre autour d'une plateforme commune avec Ariel Henry. Ariel Henry, certes, illégal, on peut dire illégitime, puisque depuis 7 février 2024, comme il s'était engagé à organiser des élections, il n'a pas pu le faire. Donc, sa démission était réclamée depuis partout, par différents acteurs. Mais maintenant, toute la question est de savoir, est-ce que ces différents acteurs qui vont adhérer à ce principe de collégialité vont mettre de côté leurs appétits, puisqu'ils considèrent tous Haïti et ses acteurs politiques, la fonction publique comme étant une rente où il faut s'enrichir très rapidement, tout ceci garanti par l'impunité. Donc on espère bien cette fois, ils vont garder leurs appétits et faire place nette, si vous voulez, à l'intérêt national.
Il y a un homme qui tente un retour sur le devant de la scène et qui pourrait vouloir combler ce nouveau vide politique, c'est Guy Philippe. Il est rentré en Haïti après avoir purgé une peine de 6 ans de prison aux États-Unis pour blanchiment d'argent lié au trafic de drogue. C'est l'ancien chef de l'insurrection contre Jean-Bertrand Aristide en 2004. Et il s'efforce de mobiliser. Il pourrait représenter une forme de d'homme providentiel pour la population.
Pour le moment, je crois qu'il a raté le momentum, parce que tout le monde s'attendait à ce que Guy Philippe prenne le pouvoir le 7 février 2024 à la suite soit d'un coup d'État ou d'un soulèvement, puisque la population l'accompagnait. Mais sauf qu'on a remarqué depuis, ça a fait pchit et puis c'est la déception totale. Depuis, il s'est retrouvé dans son fief natal du côté de Pestel et là, il veut faire surface à la suite d'une alliance avec Jean-Charles Moïse et d'autres acteurs politiques. Mais cette alliance est de plus en plus discréditée.
Et cette démission d'Ariel Henry était aussi exigée par les gangs armés. Dans un message diffusé la semaine dernière, le chef d'une coalition de gangs avait parlé d'une guerre civile, même d'un génocide, si Ariel Henry ne renonçait pas à ses fonctions. Ça signifie que ce sont ces gangs qui ont aussi obtenu la tête du Premier ministre ?
Je pense pas, mais sans doute ils ont participé quelque part, dans la mesure où les gangs avaient des relations incestueuses avec le gouvernement en place, pas non seulement avec ce gouvernement, mais avec Jovenel Moïse, avec Michel Martelly. Donc il faut le dire, les gangs sont des instruments sur lesquels s'appuient les différents acteurs politiques pour conquérir le pouvoir et pour le garder. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on avait l'impression, étant donné que les gangs ont appris l'arrivée imminente des troupes kenyanes pour les mater, donc sans doute c'était une forme de chantage, de surenchère également. Et puis troisième élément, les gangs tout à coup aspirent à conquérir le pouvoir, mais on voit bien qu'ils sont de plus en plus limités dans leur projet, puisque jusqu'à présent leur projet était un projet complètement, si on peut parler de projet, se limitait à la prédation des ressources locales, au kidnapping, aux enlèvements. Certes, ils ont recours maintenant à une rhétorique révolutionnaire, mais tout ceci, c'est pour faire de la surenchère et pour réclamer l'amnistie contre toutes les exactions qu'ils ont commises.
Vous pensez qu'ils n'ont pas d'agenda politique, ils n'ont pas de visée politique, parce qu'on l'a entendu dans sa conférence de presse improvisée en fin de semaine dernière, Jimmy Cherizier du barbecue a parlé de l'avènement d'un nouvel Haïti avec du travail politique pour tous, l'éducation gratuite, ça ressemblait à une forme de programme politique quand même.
Oui, mais c'est de la démagogie, puisqu'ils pensent à sauver ces populations de la misère. En même temps, ces populations sont victimes des atrocités des gangs. Les gangs les violent, les pillent, les tuent. On l'a rappelé ici qu'il y a des quartiers de Martissant, de Cafoufeuille qui sont vidés de leur population suite aux exactions des gangs. Et ces populations vivent un cauchemar avec les gangs. Donc, tout à coup, on ne peut pas réclamer, jouer au rôle de Robin des Bois pour sauver cette population. Donc c'est un discours complètement démagogique, farfelu, qui vise tout simplement à faire de la surenchère, à réclamer l'amnistie, parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, qu'il y aura une force internationale qui viendra les mater.
Alors justement, cette force internationale, on a appris il y a tout juste quelques minutes que le Kenya avait décidé de suspendre l'envoi prévu de policiers en Haïti dans le cadre de cette mission internationale soutenue par l'ONU. Que pensez-vous de cette décision de Nairobi ?
Je pense que c'est une bonne décision, puisque les Haïtiens voient très mal l'arrivée de Kenya. Ils pensent que le Kenya a des rapports assez violents dans le traitement des délits, des crimes à Nairobi. Donc, ils voyaient très mal l'arrivée du Kenya. Par contre, ils voient très bien une coalition forgée des pays latino-américains, de l'Équateur, du Salvador, du Brésil, et des...
Mais ces pays ont fait offre de candidature ?
Oui, il y a par exemple le Salvador qui propose une offre. Il faudrait l'intégrer aux problèmes locaux. Parce que c'est vrai qu'il y a différentes tentatives qui sont faites, notamment en 1994, en 2004, mais on a observé que... Ils ont toujours appliqué en Haïti des solutions inspirées d'ailleurs qui tiennent par compte des spécificités locales. Et très souvent, c'est l'échec. Donc cette fois, on espère bien qu'ils tirent les renseignements des échecs précédents, notamment les Nations Unies, et que cette fois, ils arrivent à parvenir à des solutions efficaces pour mater les gangs cette fois.
Vous le disiez il y a un instant, hein, les gangs armés se sont unis et ont lancé leur assaut contre les institutions du pays. Pendant qu'Ariel Henry était à Nairobi pour signer cet accord qui est donc caduc, en vue du déploiement de cette force internationale, ça signifie quand même que cette mission internationale, même si elle est loin d'arriver sur le terrain, puisque on ne sait toujours pas qui va la composer, cette mission constitue tout de même une menace jugée sérieuse par ces gangs.
Oui, cette mission, il n'y a que cette mission qui puisse arrêter la progression des gangs. Il faut le remarquer, 80% du territoire de l'Ouest sont occupés par les gangs. Et ils sont puissants. La police nationale n'arrive pas à faire face. Il y a un tiers des policiers qui sont partis aux États-Unis dans le cadre du programme Biden. Un tiers a des liens incestueux avec les gangs considérés comme des ripoux.
Et oui, d'ailleurs, Barbecue lui-même est un ancien policier.
Un ancien policier et qui bénéficie de la complicité toujours de ses collègues. D'agent de police, puisqu'il est invincible, ce monsieur. Et puis, d'autant plus, il se met aussi au service des acteurs politiques, ceux qui veulent conquérir le pouvoir. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le projet de Jovenel Moïse, c'était de faire les élections, mais en maintenant vivant les gangs. Mais finalement, bon, ça s'est retourné contre lui. Donc, autre chose, c'est qu'il n'y a que cette force internationale qui puisse arrêter la progression des gangs. Et pour le moment... On voit bien que c'est vrai que les États-Unis ont participé aussi à la socialisation des gangs parce que l'ancienne représentante de la mission des Nations Unies avait encouragé les gangs à se fédérer. D'ailleurs, Madame Lalime, pour ne pas la nommer. Donc d'où, depuis, les gangs considèrent qu'ils font partie du jeu politique et certains pensent qu'on ne peut vraiment envisager une solution efficace, politique, sans les intégrer. Mais d'autres pensent non, il faut envisager des mesures de mesures de répression et d'appliquer le programme de désarmement, démobilisation et de réinsertion.
Et cette mission internationale dont on parle, elle a été validée par l'ONU début octobre dernier. Elle doit encore être financée. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, vient d'annoncer un supplément d'aide de la part des États-Unis. On l'écoute.
La situation sécuritaire est déjà difficile, elle s'est encore détériorée et elle rend la mission multinationale de soutien encore plus importante que jamais. Compte tenu de ce besoin de plus en plus urgent, j'annonce aujourd'hui que le département de la défense des États-Unis double son soutien de la mission qui passe de 100 millions de dollars à 200 millions de dollars, ce qui porte le soutien total des États-Unis à 300 millions de dollars pour cet effort.
Les États-Unis annoncent aussi 33 millions de dollars supplémentaires en soutien humanitaire. Est-ce que ces sommes vous semblent suffisantes et est-ce que d'autres pays se sont aussi engagés à venir en aide en Haïti au cours de ces dernières heures, depuis la démission d'Ariel Henry ?
Ah, depuis la démission, pour le moment, on attend, mais on sait très bien que le Canada s'était engagé de façon très, très, très modeste, la France aussi. Mais...
91 millions de dollars quand même pour le Canada.
C'est ça. Mais ce projet a du plomb dans l'aile, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'était d'abord les États-Unis qui voulaient intervenir, puis ils se sont désengagés, le Canada aussi, et puis finalement le Kenya. Et là, on voit bien le Kenya, le Kenya s'est retiré. Donc, on peut dire, et pour vraiment parvenir à une situation sécuritaire très rapidement, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Haïti est au bord d'une catastrophe humanitaire, plus d'eau, plus de nourriture, plus de carburant, plus de gaz domestique, etc. Et il faut ajouter à cela, tous les établissements hospitaliers du centre-ville sont fermés et et même vandalisé par les gangs.
Donc, et ce, alors que la violence continue.
La violence continue. Et on continue aussi à faire des enlèvements, à procéder aux enlèvements. Et c'est une population qui est complètement inquiète, aux abois, disons seule, puisque aujourd'hui, il n'y a aucune autorité et coercitive qui puisse faire face aux gangs. Donc il y a l'urgence de l'intervention d'une force internationale.
Et vous le disiez, la situation humanitaire est catastrophique. Selon l'ONU, la moitié de la population du pays n'a pas assez à manger. 1 400 000 personnes meurent de faim en Haïti. Et je vous propose d'écouter ce que déclarait la semaine dernière le responsable du programme alimentaire mondial dans le pays, Jean-Martin Bauer, joint le 7 mars par Julien Chavanne.
Je voudrais tirer la sonnette d'alarme. La situation humanitaire était déjà très tendue avant les événements de ces derniers jours. Et elle est aggravée parce qu'on ne peut plus mettre en place nos programmes comme avant. Il faut que tout cela s'arrête, il faut que cette violence s'arrête, il faut qu'on lève les barricades, qu'on arrête de prendre en otage la population civile. Nous sommes dans une situation très tendue et il faut une action maintenant.
Alors ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a des dizaines de conteneurs remplis de nourriture, de fournitures essentielles, médicales notamment, qui sont bloqués par les bandes armées à Port-au-Prince. Est-ce que ça veut dire qu'il faut négocier avec ces gangs pour que l'aide parvienne enfin aux habitants en attendant l'arrivée de cette mission internationale?
Oui, ces gangs réclament de fortes sommes d'argent d'ailleurs. Et d'ailleurs. Il y avait assez souvent des fortes sommes d'argent versées par le gouvernement précédent aux gangs les plus puissants pour laisser passer le carburant. Ils contrôlent même tous les différents ports. Et de Port-au-Prince. D'ailleurs, il y a des différents conteneurs qui ont été vandalisés de l'ordre de 18 millions de dollars américains qui sont vandalisés et pas vandalisés, mais qui sont volés par les gangs. Et tous ces produits alimentaires devaient être trouvés dans les supermarchés, et ce qui contribue encore à l'aggravation de la situation humanitaire en Haïti.
Qui est tout à fait catastrophique.
Catastrophique pour le moment, d'où l'idée de cette intervention internationale qui devait s'opérer dans les meilleurs délais pour faire face à cette tragédie.
Vous parliez tout à l'heure de cette demande d'amnistie de la part des gangs qui pillent, qui violent, qui tuent, qui sont coupables de toutes sortes d'atrocités. Est-ce que cette amnistie est envisageable? Qu'en pense la population?
Non, la population ne pense pas. Et arriver à amnistier, c'est malfrat. Ils pensent qu'on devrait maintenant réformer la police nationale très rapidement, s'il faut.
Et lui donner peut-être de nouveaux moyens également?
De nouveaux moyens, parce qu'ils n'ont pas des moyens. Et ensuite, réformer les forces armées d'Haïti. Mais les Américains, sauf que les Américains doivent maintenant faire des concessions, puisque les Américains ne souhaitent pas qu'Haïti dispose d'une armée. Donc les Américains font tout pour que cette armée n'ait accès aux ressources nécessaires. Donc il faut maintenant une nouvelle force de police, il faut restructurer la justice et le système pénitentiaire. On voit bien que les principaux centres carcéraux ont été vidés par les gangs. Donc il faut remettre
oui, 4000 tout à plat. 4000 prisonniers sont partis la nature.
Qui sont dans la nature. Il y en a qui sont pris en charge encore par les gangs.
Est-ce que vous avez pu joindre des proches aujourd'hui à Port-au-Prince? Est-ce que le climat s'est apaisé après l'annonce de la décision d'Ariel Henry, ou les gens continuent d'être terrés chez eux, craignant pour leur vie, tout simplement?
Oui, les gens continuent d'être terrés dans certains quartiers. Il est impossible de circuler. Dans d'autres, à Pétionville, ça passe bien, etc. Mais dans d'autres quartiers, au centre-ville, il n'y a aucune possibilité de fréquenter ces quartiers, puisque les gangs règnent maîtres tout puissants. Ils font ce qu'ils veulent, ils interviennent là où ils veulent, et ils font des opérations coup de poing là où ils veulent. Il n'y a aucun appareil coercitif, répressif qui soit capable de les arrêter pour le moment.
Merci beaucoup, Jacques Nézy, docteur en sciences politiques, membre du laboratoire caribéen de sciences sociales. Merci à Éléonore Krenik qui m'a aidé à préparer cette émission, à Hélène Avril qui l'a réalisée. Restez avec nous dans un instant, le débat du jour avec Romain Ozoui, sauf pour nos auditeurs d'Afrique de l'Ouest qui ont droit à une demi-heure d'information en full day, la langue peul, c'est ça la magie des RFI.